Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Boîte à Clé. Je suis Catherine Baudin, je suis coach personnelle et professionnelle et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Si vous découvrez le podcast, en deux mots, le principe est de vous apporter des sources d'inspiration au travers des rencontres que je fais, mais aussi par le biais d'outils et techniques de développement personnel que je partage avec vous. L'objectif est de vous permettre d'apprendre à donner le meilleur de vous-même, à révéler votre potentiel et à passer à l'action. Je vous rappelle que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix et le partager si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un. Et enfin, le plus important est de mettre une note 5 étoiles ou un avis sur iTunes, ça peut permettre à d'autres de le découvrir. La semaine dernière, nous avons commencé une mini-série de 3 épisodes, diffusée de manière très rapprochée, sur le thème de l'entrepreneuriat. Dans le premier épisode, je vous ai présenté le chef parisien Arnaud Nicolas. Et la semaine prochaine, je vous propose d'aller à la rencontre de Sylviane Bertaki, la fondatrice des réceptions Bertaki. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous emmène dans l'Aube, au sud-est de Troyes, au Risset, très précisément, au cœur de la Côte des Bars, plus grand terroir de Champagne. J'ai eu l'immense plaisir d'interviewer Élise Dechâne. Après 15 ans d'une première vie professionnelle dans le secteur de la banque et des assurances, Élise plaque tout et décide de s'installer en tant que vigneronne. Dans cette interview, elle nous explique comment s'est passée cette reconversion et cette reconstruction, tant sur le plan professionnel que personnel. Élise m'a accueillie chez elle, au cœur de sa maison. Et du coup, tout comme dans l'épisode de la semaine dernière dans le restaurant d'Arnaud Nicolas, vous allez parfois entendre quelques bruits environnants. Le téléphone qui sonne, une tasse qui se renverse, le chien qui aboie. Mais une fois de plus, je n'ai volontairement pas voulu couper au montage ces bruits, car ils sont vrais et authentiques, tout comme Élise. Et parce que même avec ces bruits, tout est ok. Vous comprendrez très bientôt, en écoutant cette interview, pourquoi je vous dis que tout est ok. Mais je vous en ai déjà beaucoup dit, je vous laisse en compagnie d'Élise Dechâne. Bonjour Élise.
Bonjour Catherine.
Merci de m'accueillir pour ce podcast. Je suis ravie de te rencontrer et d'être venue jusqu'à toi, parce que je ne connaissais pas ce coin. Est-ce que tu peux nous expliquer où nous sommes ?
Alors, nous sommes au Risset, dans l'Aube, un plus grand terroir de Champagne, avec 865 hectares d'appellation d'origine contrôlée. Au cœur de la Côte des Bars.
D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer donc qui tu es et ce que tu fais ici ?
Alors, je suis vigneronne. Je me suis installée en 2008. J'ai fait ça par choix, par conviction, parce qu'il fallait que je le fasse. Je ne saurais pas expliquer exactement pourquoi, mais en tout cas, ça m'appelait.
Bon, on va y revenir quand même un peu en détail après.
Sûrement. Et du coup, c'était très, très, très important que je le fasse parce que j'étais appelée par ça. Enfin, c'était une évidence. Donc, j'ai fait un petit peu des pieds et des mains parce que ce n'était pas forcément prévu, etc. J'ai quitté mon job, j'ai démissionné. Et j'ai trouvé mon compte et je trouve toujours mon compte à faire le métier de vigneronne.
D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont les spécificités de ton champagne ?
Bah, la première chose, c'est que déjà, je pense qu'il me ressemble. Il est fait que mes tripes, mon âme, et comme j'ai envie de le faire, enfin. Parce que c'était un long chemin pour faire ce que je voulais, de la façon dont je voulais, parce que j'ai tout appris sur le tas. J'ai eu des bons coachs, puisque j'étais coach, des bons guides, mais qui à un moment donné ne me convenaient plus, ne m'ont plus convenu dans mon évolution, parce que j'ai envie de faire des choses de plus en plus naturellement, de plus en plus intuitivement. Et en fait, voilà, je me respecte assez, je me fais suffisamment confiance maintenant pour m'écouter et pour plus écouter les gens qui font peur, qui me disent si tu fais ça, tu vas avoir ça et tout.
Ok. Alors, je crois savoir que tu fais un champagne bio aujourd'hui, c'est ça ?
Oui.
Est-ce que c'est ça dont tu veux parler quand tu dis que tu fais quelque chose qui te ressemble ?
Non, même pas.
Même pas ?
Ça, c'est... Pour moi, c'est une évidence, si tu veux, parce que je... dès le départ, j'ai eu du mal à mettre du désherbant. Donc, j'ai commencé en 2008 et j'en ai mis une fois. Et puis, tu sais pas quoi, ça repousse l'herbe. C'est incroyable, quoi. Et donc, ça m'avait fort contrarié la première fois. Et quand j'ai vu qu'en plus, ça repoussait, j'ai décidé de plus en mettre, d'acheter des intercepts, enfin, de m'équiper. Et j'ai eu cette démarche et cette évolution tout au long jusqu'à aujourd'hui pour faire ce que je fais. À savoir que dès que je mettais un intrant, ça me rend malade. Mais c'est physique, hein, ça fait mal au ventre et tout ça. Et en fait, je comprends que quand je ne suis pas en accord avec moi, physiquement, ça me met très très mal.
D'accord.
Donc en fait, c'est un super fil conducteur.
De t'écouter ?
Ouais.
Pour comprendre.
D'écouter mes ressentis. Mm-hmm. Et quand je ne suis pas OK avec quelque chose...
Ton corps te le dit ?
Mon corps me le dit, je ne me sens pas bien, j'ai mal au ventre, je suis oppressée, enfin, il n'y a rien qui va. Et donc en fait, le bio, c'est juste, je suis en accord avec moi. Donc c'est pas, je ne voulais pas faire du bio, je ne le savais pas que j'allais faire ça.
Quand tu as quitté ton précédent poste, on va y revenir après, mais quand tu as quitté ton poste et que tu as décidé de t'installer en tant que vigneronne, à ce moment-là, tu n'avais pas encore cette idée-là de faire du champagne bio ?
Pas du tout.
D'accord.
Ça s'est imposé à moi, vraiment au fur et à mesure. Voilà, ça a commencé avec le désherbant. Et puis après, ça a commencé avec l'insecticide. Et puis ça a continué avec l'antipourriture. Mmh. Et puis je me disais, non, mais c'est pas vrai. Mmh. Mais comme on joue beaucoup sur les peurs des gens, donc et les vendeurs de produits, et on va dire toute la population viticole, si on peut dire ça comme ça, où ils ont été habitués comme ça, où on leur enseignait encore, je sais pas comment c'est maintenant, dans les écoles de viti. Que si on met pas d'antipourriture, que si on fait pas ci, si on fait pas ça, ça marche pas, on récolte pas. Mm-hmm. C'est encore super ancré. On te fait peur, on te dit non mais fais pas ça quoi, t'y arriveras pas, c'est pas possible. Et c'est encore très 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 véhiculé. Mais en même temps, donc je l'ai fait parce que je ne pouvais pas faire autrement.
Physiquement par rapport à toi, ce que tu ressentais.
Physiquement carrément. Par rapport à ce que je ressentais, je ne pouvais pas, quoi.
C'était pas concevable pour toi de faire autrement.
Non.
Et pour autant, du coup, cette peur dont tu parles, là, de « oui, mais ça va pas marcher, attention, fais pas ça », tu l'avais, cette peur, ou pas ?
Ah ouais ? Ah ben, j'ai eu... Bah oui, je l'ai bien eu. J'ai eu beaucoup de pression, et donc... Et à chaque fois que j'ai fait les choix que j'ai fait, j'étais... Qu'est-ce que je fais ? J'ai raison, j'ai pas raison, je m'en fous, je le fais, j'ai raison. Enfin, on a essayé de remettre en cause à chaque fois ce que je faisais.
Et comment t'as réussi à ne pas te laisser guider par cette peur ? Parce que là, on parle du champagne, mais en réalité, c'est valable dans énormément de secteurs. Oui. Et à partir du moment aussi où tu lances ton activité et que tu crées ton entreprise, quel que soit le secteur, on a tous des peurs similaires à ça. Comment tu as fait pour justement ne pas te laisser guider par ces peurs et te dire « bon bah d'accord, ils ont peut-être raison, moi j'ai envie de faire comme ça, mais voilà, je vais plutôt faire comme ce qu'on me dit de faire pour être sûr que ça marche ». Est-ce que tu arrives à l'expliquer ça ?
Non. Je l'ai fait parfois j'ai écouté mes peurs, et à chaque fois je revenais en arrière, enfin
d'accord.
À chaque fois je... Donc ça s'est fait vraiment progressivement.
T'as pris conscience en fait au fur et à mesure que finalement quand t'écoutais tes peurs, ça fonctionnait pas comme tu le voulais ?
Non, ce que je te disais tout à l'heure, j'étais pas bien physiquement.
D'accord.
Enfin, alors j'avais les jambes qui tremblaient, je prenais la décision, je me disais, ben je fais sûrement une connerie, bah tant pis, j'y vais, enfin je fais. Et j'ai fait et je regrette pas.
Comment tu as réussi à comprendre alors que ton corps te parlait finalement ? Tu dis, je me sentais pas bien physiquement. Comment tu as réussi à comprendre que c'est quand tu faisais quelque chose qui ne te convenait pas que ton corps te l'exprimait de cette façon-là et qu'il fallait que tu l'écoutes ?
Je ne saurais pas dire, je pense que ça se fait au fur et à mesure.
Enfin, ça prend du temps.
Ouais, ça prend du temps. Enfin, je dirais que c'est pratiquement ce qu'on appelle l'expérience. Mmh. Mais en tout cas, il y a des choses, on me disait des choses, j'étais novice. Hein. J'ai fait une formation avant pour reprendre, pour comprendre comment ça fonctionnait, parce que j'ai fait le SC à Reims, enfin, j'ai pas fait l'école de la vigne, pas de BTS au Noviti, enfin voilà, Je suis fille de vigneron, mais c'est tout. Enfin, mais c'est tout. J'ai aucune compétence. Et en fait, j'ai appris en faisant. Et vraiment, on me disait des choses. Je ne pouvais pas croire ce qu'on me disait de faire ci, parce que ça...
Ça collait pas.
Ça collait pas pour moi. Et vraiment, c'est purement intuitif. Hein. Alors, j'ai eu peur tellement souvent que j'ai écouté quand même. Je suis pas passée en bio tout de suite. Et puis après, on s'affranchit de tout ça parce que c'est plus possible. Quoi. Et puis après, c'est important de savoir se positionner, de dire non, mais c'est bon, quoi. Stop. Puis moi, j'ai besoin de me regarder...
D'être droite.
Ah ouais, j'ai besoin d'être...
Avec toi-même.
Moi, de pouvoir me regarder, moi, dans la glace.
De dire ce que je fais, ça me correspond.
Ouais, d'être ce qu'on fait, de faire ce qu'on est, enfin d'être en accord parfait, quoi.
Ouais. Être en accord parfait entre qui tu es, ce que tu fais, comment tu le fais.
Okay. Ouais. Moi j'ai besoin d'être bien physiquement.
Oui, puisque ton corps te parle.
Oui.
Alors justement, je vais rebondir sur ce que tu disais à l'instant, donc que t'avais pas fait ce type d'études à la base. Je crois savoir que ton parcours, enfin, ta première vie professionnelle, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, oui. Mais au démarrage, tu as travaillé dans le secteur de la banque et de l'assurance, c'est
oui.
ça, des assurances.
Oui, c'est ça. Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer ça, ton parcours, comment ça a commencé, tes premières expériences, tes premiers jobs, qu'est-ce que tu as fait exactement ?
Mes premiers jobs, j'ai travaillé dans les assurances, démarcheur en assurance, donc ça ne me plaisait pas du tout.
Alors, qu'est-ce qui fait à ce moment-là que tu l'as fait ?
J'ai trouvé un job.
D'accord.
J'avais trouvé un job, j'ai fait comme une école de commerce, où je me sentais super pas bien, ça ne me plaisait pas non plus. Et en fait, à l'origine, je voulais faire du droit, être avocate, je voulais défendre la veuve et l'orphelin, parce que voilà, je suis un peu comme ça. Et en fait, j'ai fait un bac G2, parce qu'il y avait du droit, et je me suis retrouvée à bouffer de la compta, j'ai horreur de ça. Et bah, du coup, je fais l'école de commerce, gestion, compta, marketing. Je n'aimais pas ça du tout. En fait, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie jusqu'à ce que je reprenne les vignes à faire des choses que je n'aimais pas, à ne jamais être dans ce que j'aimais faire. Du coup, je pense à me dépasser, à me prouver, j'imagine, que j'étais capable de faire des trucs comme ça. Parce qu'à chaque fois, ça m'a coûté. Mais à chaque fois, je l'ai fait et plutôt bien.
D'accord.
Et puis, bah, voilà.
Ça te demandait beaucoup d'efforts parce que tu n'aimais pas ça.
Oui.
Mais du coup, ça te mettait à l'épreuve et ça te permet...
Je me mets beaucoup
ça
à l'épreuve.
Ça t'a permis de te montrer que tu étais capable de faire...
Oui, à moi.
D'accord. Okay. Et en fait, tu as fait ça parce qu'il fallait le faire, c'était pour rentrer dans des cases
Je ne sais pas, j'ai fait ça, je ne sais pas.
Bon, en tout cas, c'est ce que tu as fait et tu as commencé à travailler dans les assurances.
Ouais.
Et là, c'était pas toi.
Ah non. Non. J'avais du mal parce que je trouvais qu'il y avait des choses qu'on vendait qui n'étaient pas... nécessaire et ils n'étaient pas super en accord avec moi et puis il fallait forcer pour prendre les rendez-vous téléphoniques. Alors, je vais me faire et du coup c'est pas moi, je n'aime pas forcer les gens, j'aime les gens. Et je pouvais pas être intrusive comme ça, faire du forcing, c'était tellement pas moi que c'était compliqué.
Et pour autant tu le faisais bien?
Non, dans les assurances, non. J'étais mauvaise, on peut le dire. Je vendais pas bien, et c'est OK. Par contre, ensuite, en banque, oui. Parce que là, les clients viennent à nous. Et là, par contre, il y a un vrai job de conseil,
La démarche est différente.
Ah ouais. Et là, j'ai beaucoup aimé ce que je faisais. J'avais juste des problèmes avec ma hiérarchie que je trouvais pas cohérente. On nous presse un peu comme des citrons ou... Enfin, il faut marcher au bâton, il faut faire tant de pelles par jour, tant ceci, ça me gonflait. Je trouvais que ce n'était pas mon job.
Bon, au final, du coup, tu as passé combien de temps, que ce soit dans les assurances ou dans la banque ?
13 ans, 15 ans, en tout.
Donc après tes études, pendant 15 ans, il y a eu cette première partie de vie professionnelle, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça.
Oui, on peut dire ça.
Quels enseignements tu en as tirés ?
J'ai découvert le monde du travail, j'ai découvert un milieu qui ne me plaisait pas du tout. Donc c'est important pour savoir.
C'est important de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas.
Non, mais carrément, je me sentais décalée en fait. J'aimais juste voir les gens, les conseillers. Mais alors, toute cette pression qu'on avait, tout ce qu'on nous demandait de faire, là, les grands messes ou... On raconte des tas de choses où on se fait...
On parle des objectifs.
C'est ça, on se passe la brosse à reluire à tout le monde et tout ça. C'est juste insupportable.
D'accord.
Et donc, j'ai découvert ça, mais j'ai aussi appris à vivre en entreprise. J'ai appris tout le milieu bancaire, c'est quand même important, parce que j'en ai eu un peu besoin pour m'installer en tant que vigneronne. Donc, c'est une période que je ne regrette pas. Puis je me dis que c'était le chemin, le passage, et que c'est OK.
Il fallait passer par là pour en arriver là aujourd'hui.
Tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, il fallait que je le fasse pour être ce que je suis ici, maintenant. Donc, il n'y a pas de... Même si on ne sait pas toujours pourquoi on fait les choses, tout ne s'explique pas et on n'est pas forcé de savoir pourquoi on fait. Parce que moi, pour le coup, pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait avant, alors là...
La réponse, tu ne l'as pas, mais en tout cas, tu arrives quand même à capitaliser là-dessus pour savoir ce que ça t'a permis d'en faire et ça t'a permis d'en arriver là où tu en es aujourd'hui.
Oui, ça fait partie.
C'est hyper intéressant ce que tu dis là parce que je trouve que bien souvent, les gens, en tout cas moi, les gens que j'accompagne, surtout pour des questions de réorientation professionnelle qui se posent vraiment des questions, ont du mal à franchir le cap parce qu'ils ne savent pas forcément exactement soit ce qu'ils veulent faire, soit ce que ça va donner ou pourquoi ils vont le faire et là où ça va les conduire. Et souvent, les gens veulent tout de suite une visibilité, tu vois, à 5-10 ans, et puis savoir où ils vont être exactement. Mais sauf que parfois, on fait des choses à un instant T parce qu'on sent qu'on a envie de les faire et que c'est bon de les faire. Mais il faut s'accorder le droit de ne pas savoir exactement où ça va nous emmener parce que finalement, déjà, on n'a pas de boule de cristal. Et puis parce que peut-être que de faire ça, ça va t'amener une rencontre et puis tu vas te rendre compte de telle chose et puis que finalement, ça ne te convient pas. Et puis, c'est ce cheminement-là qui va t'amener à finalement...
Ouais, c'est ça.
Après, la suite.
C'est un peu être, quoi. Enfin, c'est être dans le moment présent.
Dans le moment présent, en fait.
Et voilà, c'est comme ça. Mais j'étais pas heureuse en banque. Hein. Enfin, j'étais heureuse juste quand j'étais avec les clients. Mmh. Ce qu'on me reprochait, je passais trop de temps avec, que c'était pas assez rentable, tatati, tatata, mais enfin...
Mais est-ce que ça, à ce moment-là, t'arrivais à te le dire ? Est-ce que t'arrivais à te dire, je suis pas heureuse, mais je passe par là, je sais que ça va m'amener à autre chose ?
Non, je savais pas, mais par contre, je me disais, je sais que je suis pas à ma place.
D'accord.
Je savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que j'étais pas à ma place.
Ok.
C'était un truc récurrent.
Ok. Et alors, qu'est-ce qui a fait le déclic ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, tu te dises, je pars et
voilà, j'y vais ? Il faut savoir que j'ai toujours voulu faire ça quand même, j'ai toujours voulu travailler dans la vigne. Parce que je suis fille d'eux. Mmh.
Donc, ce qui veut dire que tu as grandi dans cet environnement-là, tu y as passé...
Mes parents étaient vignerons, donc j'ai vendu le champagne de mes parents,
Étant jeune, j'allais dans les vignes...
Oui, j'allais aux vignes, je savais pas le pourquoi du comment, mais j'allais palisser, j'allais attacher, enfin voilà, fille de vigneron, quoi. Mmh. Et en fait, il se trouve que le déclic, c'est le décès de ma maman, qui est morte en janvier 2002, elle est morte des suites d'une longue maladie dégénérative. Et
Donc à ce moment-là, toi, tu travaillais ?
À ce moment-là, j'étais à la banque et là, maman décède. Et là, ça suffit, la vie est trop courte, j'ai toujours voulu faire ça, je veux faire ça. Mmh. Et là, boum. Enfin, là, c'était une évidence. Évidemment, le décès, j'ai eu évidemment du mal à accepter tout ça. Donc ça a été un gros travail, un cheminement. Maintenant, tout est OK. Mais en attendant, le déclic, ça a été... la vie est très courte. Maman est morte jeune. Elle est morte à 54 ans. Mmh. Elle a beaucoup travaillé. C'était vraiment une belle personne. Enfin, c'était quelqu'un de bien. Et du coup, j'étais en train de gâcher, entre guillemets, ma vie à faire des trucs qui ne me plaisaient pas, quoi. Donc, stop. Mmh. Et donc, en fait, ça s'est fait à 38, 40 ans. Enfin, c'est OK, c'est normal. Mmh. Enfin, c'est normal. C'est voilà, on a fait une partie de vie, comme tu disais tout à l'heure, et puis après, on a maturé, on ne sait pas trop pas pourquoi, mais là...
Mais certainement parce que c'était le bon moment aussi, et qu'avant, ce n'était pas le moment.
On est d'accord. Mmh. Donc le déclic, ça a été ça. Mmh. Donc du coup, je me suis installée, enfin mon père m'a donné des terres en fermage, et puis je me suis lancée. Mmh. Okay. Avant de me lancer, quand même, j'ai fait une formation, un BPREA.
C'est quoi ce BP ?
C'est le brevet de responsable d'exploitation agricole.
D'accord. Qui est indispensable pour ce...
Non. Non, d'accord. Qui n'est pas indispensable, mais si tu veux, donc même en étant fille d'eux, j'avais une petite perception des choses, mais je ne savais pas comment ça fonctionnait, donc j'ai voulu savoir pourquoi... Enfin, comment j'allais faire, ce que j'allais faire. Mmh. Parce que je ne sais pas glisser, je sais que mon père y traitait, enfin...
Oui, mais il faut aller. Oui, voilà, c'est ça. Mais il faut aller plus loin, comprendre.
Et alors là, révélation. Les sols vivent, respirent. Et alors là, j'en prends. Mais
au moment de cette formation-là, c'est ça, tu prends conscience que qu'il y a une vie.
Il y a un énorme truc derrière qui me parle, qui m'a rempli. Et je me suis dit, enfin alors là, mais j'ai tout découvert. Enfin, et ça m'a tellement. C'est ça aussi. C'est pour ça que j'en suis là. C'est que ça m'a tellement touchée.
Ça a fait écho avec toi-même, en fait, avec tes valeurs, avec ton toi vraiment profond. En fait.
Et du coup, voilà pourquoi j'ai mis une seule fois du désherbant, et qu'après j'ai plus mis, que j'ai arrêté les insecticides, les anti-pourritures et tout, parce que j'ai compris que le sol, que la terre était vivant, qu'il y avait un échange, qu'il ne fallait pas abîmer, que la terre sait ce qu'elle a à faire, que... Enfin, il faut aider, mais faut pas casser la biodiversité. Enfin, moi, j'ai capté tout ça, et donc je n'ai pas du tout fait comme mon père faisait. Mm-hmm. Et là, ça a été quelque chose.
Parce que quelle vision tu en avais avant ? C'était quoi la différence entre ta vision ?
Je n'avais pas de vision. J'aimais aller aux vignes. Mm-hmm. J'ai toujours aimé être dehors, dans la nature et tout ça. Point.
Donc, c'est la seule vision que j'avais. J'aime les vignes. C'est tout. J'avais pas d'idée, j'avais pas de rêve. Mmh, Et le rêve, on va dire, il s'est construit quand j'ai fait. Hein. Enfin, ça a été vraiment un cheminement. Mmh. Et du coup, pure conviction, pure tout. Enfin, voilà.
Donc là, tu fais cette formation-là, tu as cette révélation-là qui vraiment te permet de comprendre ce qu'est la vigne, le sol, etc. Révélation, ça a pris combien de temps, en fait, tout ce processus de formation entre le moment où tu es partie, où tu as démissionné, hein, c'est ça, de ton précédent poste ?
Un an et demi
avant de...
faire mon premier petit. Mmh. Et...
Donc tu
faire ma formation adulte, de démissionner, enfin tatati, tatata. Et...
Ok. Donc tu t'installes et là tu me dis, donc tu as quand même la première fois mis des produits chimiques.
Si tu veux, je me retrouve à avoir 5 hectares à faire. J'ai juste une formation de 7 mois, enfin une formation adulte.
Tu es toute seule à ce moment-là ?
J'ai un mari qui ne travaille pas avec moi. J'ai deux petits.
Deux enfants qui ont quel âge à ce moment-là ?
À quel âge ils ont ? Eh ben, 3 mois et 2 ans.
D'accord. Donc,
et alors là,
en bas âge.
Si tu veux, comment dire, je débarque de la lune. Hein. Mm-hmm. Je viens d'ailleurs, je récupère les salariés de mon père. Voilà.
Donc combien de personnes ?
Deux, enfin mm-hmm. un et demi. Mm-hmm. Et moi, et voilà. Et donc, il faut que je leur dise de faire ci, de faire ça. Il y a de l'herbe qui pousse. Mince, comment on fait ? Il y a de l'herbe. Alors l'herbe, c'est super mal vu. Hein. Enfin là, c'était il y a 10 ans.
Mais oui,
c'est
toujours... aujourd'hui. Oui, aujourd'hui.
Enfin, c'est mieux, mais il y a encore des énormes progrès à faire. Et là, tant pis, je mets du désherbant. Enfin, la première année, comment te dire, c'était dans tous mm-hmm. les sens. Hein. Mm-hmm. J'y connaissais rien. Mm-hmm. Bah quand même, j'ai fait, en ne connaissant pas grand-chose. Et puis j'ai appris, puis au fur et à mesure, j'ai arrêté des choses. Donc j'ai changé de salarié parce que... ça collait pas, c'était mm-hmm. pas d'accord avec ma vision des choses, puis enfin tatati, tatata.
Et c'est donc c'est petit à petit, donc le cheminement s'est fait petit à petit, où tu en es arrivé à ce champagne bio aujourd'hui.
Oui, parce que au fur et à mesure, j'ai arrêté les intrants qui me convenaient pas, et après, et j'ai pas souhaité m'orienter bio tout de suite parce que je ne voulais appartenir à rien ni personne. Mm-hmm. Je voulais pas de logo, ou je voulais pas
devoir rendre des comptes.
Ouais, non, je voulais pas être identifiée à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Enfin, mm-hmm. je voulais être libre, mm-hmm. en fait. Et en fait, en étant bio, sans avoir le label, sans avoir le contrôle derrière, qui est super, qui est très très contraignant, on peut tous raconter une très très belle histoire. Mm. Mais à un moment, faut montrer patte blanche. Ouais. Et du coup, ce qui m'a
Pourquoi pour le client ?
Pour les clients. Parce que moi, du coup, je racontais mon histoire aux clients, donc pas désherbant, enfin tout ça. Donc quand je les ai en face de moi, il n'y a aucun problème, parce que je vis mon truc, enfin je suis dedans. Ouais. Mais en même temps, pour l'export, pour les pros, ils font un papier. Mmh. Quand ils embarquent notre champagne en Suède, en Angleterre, il faut un
justificatif. Il faut justifier, ouais. D'accord.
Et d'où la labellisation l'année dernière, mais sinon je...
Ok. Qu'est-ce que ça a eu comme impact concrètement dans ta façon de travailler aujourd'hui, le fait de justement basculer en bio concrètement ? Donc moins d'utilisation, voire pas du tout de certains produits, j'imagine, mais
oui,
pas que. Qu'est-ce que ça a engendré
Ça a engendré donc dans la façon de travailler l'emploi de plus de personnel.
D'accord.
Parce que du coup, on est bourgeonne, parce qu'on utilise encore la raclotte, enfin, la bitette. Mmh.
Donc il y a beaucoup plus de travail manuel.
Oui, il y a beaucoup plus de travail. On est beaucoup plus présent, on est beaucoup plus sur le feu, sur le qui-vive. Mmh. Parce qu'en période au printemps, quand la pousse commence à se faire, bon, voilà, il faut s'occuper des traitements et on ne met pas de produits systémiques. Mmh. On est juste en contact et du coup, il faut surveiller. Il n'y a pas la même pluviométrie partout, donc on ne passe pas forcément toujours à la même parcelle, pas au même rythme. Enfin, on ne s'appuie pas sur la chimie où on sait qu'on a 10 à 12 jours d'efficacité. Où on se dit, si on se prend quelques orages, tant pis. Mmh. On attend qu'il fasse beau, on aura une fenêtre, on ira. Et donc, c'est beaucoup plus stressant. Et il faut faire la tournée des parcelles souvent.
C'est-à-dire tous les combien
Dès qu'il pleut, il faut aller voir comment elle se comporte, la pluviométrie. Enfin voilà, on a des stations météo. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'implication.
Et quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées depuis que tu t'es installée?
Les difficultés que j'ai rencontrées sont essentiellement humaines, personnelles. Ma famille s'est opposée à moi, en tout cas m'a bien fait comprendre que je faisais n'importe quoi. Ça a été super dur pour moi parce que ça a été compliqué.
De défendre ce que toi tu avais envie
de
faire.
Oui, de défendre ce que j'avais envie de faire. Et en fait, je pense que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, les débuts, là, je suis apaisée. Mais beaucoup de choses dans la colère parce qu'on me disait « tu n'y arriveras pas, c'est pas possible ». Voilà, et j'ai entendu ça.
Alors que toi, au fond de toi, tu sentais que c'était possible?
Je savais pas si c'était possible, mais en tout cas, je voulais essayer.
T'avais envie de le faire, d'essayer?
Oui, il fallait.
Est-ce qu'il y a eu des moments où t'as eu envie de baisser les bras?
Non. J'ai un peu... Non, parce que c'est comme ça.
C'est
trop ancré, trop profond, trop inexplicable pour que je... C'est pas... Je fais pas ça parce que, je vais faire ça. Non, je l'ai eu de haute lutte et je l'ai fait pareil. Et du coup, non. Puis une fois que je suis dedans. Après, une fois il faut s'en sortir. Donc quand on n'a plus le choix non plus. Et en même temps, avoir la force de résistance là, de ma famille. Maintenant, avec le recul, je dis merci et du fond du cœur, parce que s'ils ne m'avaient pas fait autant de remarques, ça n'avait pas été aussi ce qu'ils ont été, et peut-être que je n'aurais pas fait tout ça. Je pense qu'avoir une force d'opposition comme ça a été quelque chose, et je me dis qu'on a les défis qu'on est capable de relever, donc check.
Dans la vie, c'est-à-dire que la vie t'amène les défis que tu dois relever, c'est ça?
Oui, j'en suis sûre. Et du coup, je me dis ça c'est fait, et si ce n'était pas opposé aussi fort à moi, peut-être que je me serais pas acharnée
autant.
Peut-être que j'avais besoin de ça pour découvrir mes convictions. Alors là, c'est un peu perché, hein, peut-être ce que je dis.
Mais, non, pas du tout.
Mais peut-être que j'avais besoin de ça pour me révéler, pour être ce que je suis. Et, tu vois, mais quand j'étais dedans, comment te dire? Je ne pensais pas ça du tout. J'étais super en colère. Mais la colère est un sacré moteur.
Ouais. Mais c'est ça qui est hyper intéressant, tu vois, parce que tu dis sur le moment, évidemment, tu ne le vois pas. En fait, souvent, on ne se rend pas compte du cadeau des situations.
Oui,
quand
on
vit une situation, moi j'ai quelqu'un qui m'a dit ça un jour et peut-être qu'il se reconnaîtra s'il m'entend, mais il m'a dit de toute façon dans la vie, quelle que soit la situation que tu vis, que ce soit une difficulté relationnelle ou autre, peu importe, dans toute situation il y a un cadeau.
C'est vrai.
D'accord ? Sauf que quand tu vis la situation par moment, les émotions font que tu peux pas voir le cadeau, tu peux pas déballer la surprise et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, tu sais, des fois, je me retrouve dans des situations, là, je pense à lui, je me dis, il est où le cadeau ?
C'est ça.
Alors, il y a des moments où tu peux le voir et il y a des moments où tu le vois pas. Et quand tu le vois pas sur le moment, tu le vois après. Oui. Alors, justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, maintenant que tu as ce recul et que tu arrives à voir ça, que tu l'as vécu, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui vont, par exemple, écouter et qui sont dans une situation personnel ou professionnel, peu importe, puisque finalement ça s'applique dans tous les domaines. Par rapport à ton expérience et ton vécu, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des gens qui sont dans une situation qui aujourd'hui ne voient pas le cadeau et n'arrivent pas à s'en dépatouiller, à sortir de la situation? Par rapport à ce que toi tu as vécu,
ça dépend. Et je peux rien leur dire parce que j'ai de leçons à donner à personne. Ce que je sais, c'est que... Ce que je sais, c'est qu'il y a un cheminement. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai pardonné. Pourquoi je ne suis plus dans la colère. Il y a un travail qui s'est fait. Mais je pense que par où je suis passée, la colère, qui a été un moteur, mais pour moi énorme, elle est partie. C'est comme ça. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais enfin voilà.
Et ça s'est fait avec le temps.
Pour moi, ça s'est fait avec le temps. Mais si je peux dire un truc pareil, je crois que le pardon, c'est super important. En fait, quand on... Déjà, se pardonner à soi nos défauts, nos problèmes, quand on n'est pas à la hauteur, quand on fait... ça ne sert à rien de se fustiger, de dire « je suis nulle, je suis mauvaise, je suis vraiment conne ». Alors voilà. Se pardonner nos erreurs, nos fautes et tout ça, parce que nous ne sommes que des humains. Donc déjà, donc on se donne des bonnes énergies, quand on se pardonne, d'accord. Et quand on est capable de se pardonner, On peut pardonner à tout le monde. Et moi, maintenant, avec ma famille, parce que ça a été quand même mes opposants, enfin, les deux hommes de la famille, là, ça a été mes opposants les plus virulents, je les remercie du fond du cœur. Et franchement, je pense savoir où ils en sont. Et je les aime pour ça, et je n'ai plus aucune rancœur. Et en fait, il faut aussi accepter tout ça. Et...
Parce que ça fait partie de l'histoire, de ce que tu as à vivre et de ton histoire et de ce qui fait que tu en es là aujourd'hui.
C'est ça. C'est merci. Et en fait, le conseil à donner aux gens, c'est faites-vous confiance. Enfin, aimez-vous, faites-vous confiance.
Accordez-vous de la crédibilité, de la confiance, de l'amour. Attention, on n'est pas en train de parler de surestime de soi.
Non, c'est
plutôt de la bienveillance, en fait. Bienveillance vis-à-vis de soi-même.
Voilà, se trouver moche, ça ne sert à rien non plus, ça nous démonte. Se trouver bête, ça ne sert à rien non plus, ça démonte. On est tous parfaits comme on est.
C'est ça.
Et du coup, dis donc, ouais, quand on sait ça... ça fait du bien.
Ça fait un bien fou.
Non, mais c'est ça.
Ça se donne de la crédibilité pour faire les choses comme on a envie de les faire.
Ouais, c'est ça. Et moi, en fait, j'ai une amie qui est psychothérapeute. On a passé des heures à parler de tout ce qui m'arrivait, tout ça. Enfin, et en fait, quand je m'en voulais de mes réactions, d'être en colère et tout ça, parce que en fait, je n'aime pas être en colère. Et je n'ai fait que ça.
Que ça.
Que ça. Tout le temps dans la colère. Et à chaque fois que je faisais un truc où j'étais pas fière, où je m'étais énervée, et paf, je passe encore pour le sale caractère, tatati. Mm-hmm. Et en fait, elle me disait tout le temps, Catherine, tout est OK. C'est OK, Élise. Pardonne-toi. Et alors, le tout est OK, ça m'a sauvée, je crois. C'est arrête de te tirer une balle dans le pied à te dire que t'aurais pu. Enfin, non.
Ça va. C'est bon. Il n'y a pas de problème.
C'est OK. On a le droit, on est où on est parce que c'est comme ça, parce que c'est le chemin, c'est nos choix. Enfin, tout est bien, tout est à sa place. Alors là, moi, le c'est OK. Et du coup, pour mes enfants, parce que j'ai deux garçons, ils ont 11 et 13 maintenant, je les éduque plus du tout pareil. J'étais petit, je leur ai crié dessus, dans la reprise, la colère et tout ça. Mais alors maintenant, c'est...
Oui, tu leur inculques le c'est OK aussi?
Bah évidemment, ça fait un bout de temps, mais ça marche plutôt bien. Et quand oui, je suis nulle, j'ai fait ça. Non, tu te pardonnes déjà. Bah écoute, tu l'as fait parce que t'as fait.
Il fallait que tu le fasses à ce
moment-là. Et puis on fait du. Alors ce qui est super important aussi, à tirer au champ, c'est qu'on fait de son mieux avec ce qu'on est au moment où on prend la décision. Donc on fait ce qu'on fait parce qu'on est capable de faire que ça, entre guillemets.
À ce moment-là.
À ce moment-là.
Ouais. Je suis d'accord avec
toi. Et ça, c'est vraiment... ça, c'est libérateur. Enfin, j'ai jamais voulu faire du mal aux gens. J'ai fait tout ce que j'ai fait, c'est OK. Mais en tout cas, quand l'intention est bonne et quand on fait de notre mieux tout le temps, c'est ça le chemin, tu vois. Enfin, c'est ça le... Et du coup, moi, j'essaye de faire comprendre ça aux garçons, là. Et en fait, ça marche plutôt bien.
C'est vrai que c'est quelque chose que je remarque aussi souvent avec les personnes que j'accompagne en coaching. Dans la prise de décision, il y a une difficulté à passer, enfin à vraiment à prendre la décision, prendre une décision et passer à l'action. Parce qu'il y a toujours cette réflexion qui est de dire « oui, mais si je regretterai après, parce que s'il se passe ça, etc. etc. » Et moi, je dis toujours « attention, aujourd'hui, vous prenez une décision dans le contexte qui est celui d'aujourd'hui, avec les informations que vous avez aujourd'hui, en fonction de qui vous êtes aujourd'hui. » Et on va se reposer la question dans 6 mois, de toute façon. Le contexte ne sera pas le même.
C'est ça.
Parce que vous aurez changé, parce que l'environnement aura changé. Et du coup, oui, peut-être que dans 6 mois, la décision ne sera pas la même. Mais forcément, le contexte n'est pas le même.
C'est ça.
C'est juste la décision, elle est la bonne au moment où on
la prend. On fait de notre
mieux. Il n'y a pas de regret à avoir.
C'est ça.
Voilà, c'est ça. La décision, elle est prise à ce moment-là. C'est qu'elle doit être prise comme ça. Et même si 6 mois après, on en prendra une autre, ben, on en tire des apprentissages, on regarde ce qui s'est passé et on garde le bon de ce qui s'est produit finalement.
Sans se dire « oh là là, si j'avais su, oh, il fallait pas, oh, j'ai eu tort ». Ça flingue. Ouais.
Est-ce que dans ton parcours, tu as eu des personnes qui ont été un peu des mentors pour toi ou des personnes vraiment significatives qui t'ont marqué? Vraiment dans le bon sens du terme, je dirais, qui t'ont inspiré, qui t'ont accompagné,
Pour mon métier?
Oui.
Oui.
Quelqu'un qui était vraiment une référence pour toi, tu vois?
Quelqu'un qui... Des personnes qui sont toujours des références, oui, j'en ai. Des amis vignerons, Olivier et Marie Oriot, qui sont en bio et biodynamie, qui m'ont mis le pied à l'étrier pour tout ça. que je respecte énormément parce qu'ils sont très grands dans le sens où ils sont d'une générosité, d'une bienveillance hors norme. Donc ce sont mes amis et toujours je les considère comme mes mentors parce qu'ils font ça depuis bien plus longtemps que moi. Mmh. Et j'apprends beaucoup de choses à leur contact, aussi bien humainement que techniquement pour le boulot. C'est vraiment des rencontres d'âme, mmh. Je pense, on peut dire ça. Et en fait, tu vois, depuis que je suis en ligne avec ce que je fais, en bio et biodynamie, donc voilà, je trouve que j'ai une vie beaucoup plus facile. Tout se met en place.
Tout est aligné, tout vient, tout les choses viennent.
Et je trouve que, je sais que c'est, je dis plus que c'est, j'ai de la chance, je sais que tout est juste. Et je rencontre que les gens formidables. Je me dis, oh là là, c'est trop.
Encore bien. Quelle belle rencontre.
Ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et avant, c'était, oh, pas de bol, ça me tombe encore dessus. Enfin, et du coup, vraiment, en fait, tout se place, tout va.
Aussi, peut-être parce que t'es ouverte aussi à ça.
Beaucoup plus ouverte. Oui, hein, on est d'accord.
Tu vois les choses, tu vois.
C'est ça, je suis dans l'acceptation, entre guillemets. Acceptation, ça veut pas dire. Se laisser marcher
non.
dessus,
ça veut pas dire qu'on accepte tout et qu'on tolère tout.
Mais ça veut dire prendre les choses comme elles viennent. Et ben oui, aujourd'hui j'avais prévu de faire ça, et puis ben voilà, j'ai un accident de voiture, ben oui, ok, et ben je ne pourrais pas faire ce que j'ai prévu, et c'est ok.
Oui, parce qu'en même temps, penser que la vie va se passer exactement au millimètre comme on l'avait prévu, c'est un peu utopique aussi.
Oui, mais on se contrarie beaucoup avec ça. On se prévoit des tonnes de choses à faire dans une journée, et puis quand on n'a pas pu, qu'il y a eu un petit... Alors là, c'est pour moi, avant, c'était...
La cata.
C'était un peu la cata. J'avais pas le temps, comment j'allais faire et tout ça. Et alors maintenant...
Alors justement, tu peux nous expliquer par rapport à ça comment tu fonctionnes aujourd'hui dans ta vie de chef d'entreprise, puisque tu es chef d'entreprise. Est-ce que tu as des astuces, des techniques en termes d'organisation, tes journées, comment ça se passe ou est-ce non. que tu fonctionnes aussi ouais, voilà, comme
je fais fonctionne, ce que... Je fonctionne au ressenti, je sais que j'ai des choses à faire et je fais ce que j'ai envie de faire. Mm-hmm. Il y en a qui vont hurler, hein. Ils auront raison, sûrement.
Non. Ou pas, hein, dans l'absolu, si c'est ce qui te convient, c'est très bien. C'est ok. Hein,
on est d'accord. Voilà. Et du coup, je sais que j'ai des choses à faire, mais je les fais quand je sens que c'est bien que je les fasse. En fait, quand je fais des choses que je ne suis pas contrariée, que je ne m'impose pas une liste de choses à faire, ça se passe super bien. Je suis d'une efficacité redoutable. Mm-hmm. Ça veut dire que si j'ai vraiment, par exemple, alors l'administratif, c'est quelque chose qui m'exècre. Mm-hmm. J'ai vraiment beaucoup de mal. Je fais ça vraiment à reculons. Quand je suis prête à le faire, je le fais. Mais alors,
c'est que c'est le moment.
C'est le moment, c'est vite fait, c'est bien fait. J'ai du travail à faire en cuverie, je suis énervée, je suis pas bien parce que j'ai eu des événements. Enfin voilà, il y a des jours, ça va pas. Je vais pas en cuverie pour pas transmettre tout ça à mes
vins. Pour pas polluer.
Enfin, donc j'essaye vraiment de faire les choses quand je vais bien et vais de plus en plus souvent bien. J'arrive à faire de plus en plus. Je fais moins les choses dans la force. En fait, le truc, il est là. Il ne faut pas forcer les choses, se dire coûte que coûte, j'avais prévu ça, je le fais. Hein. Ça, pour moi, c'est niette. On roule contre soi quand on fait ça.
Oui, oui, et parfois, des fois, on n'ose pas dire non. Quand, par exemple, il y a quelque chose qui est en lien avec une autre personne, on n'ose pas lui dire non parce qu'on a peur d'être jugé, d'être blessé, etc. Mais en fait, on n'est même pas bienveillant, même pas respectueux déjà
c'est
de soi-même.
La première chose, c'est se respecter soi-même.
C'est ça. Pour respecter les autres, avant tout, commencer par se respecter soi-même.
Être en accord avec soi-même.
Et pour autant, comment tu fais ? Parce que inévitablement, à un moment donné, sur certaines choses, tu dois avoir quand même des délais à respecter.
Ah oui,
Donc, il t'arrive quand même parfois de devoir faire les choses parce que tu as la contrainte du timing ou...
Oui, évidemment. Par exemple, quand on passe traiter parce qu'on a une fenêtre très très courte et que on a un DSA à faire parce qu'on a le transporteur qui vient, comment te dire, là c'est grosse stress et là t'as pas le choix.
Que t'aies envie ou t'aies pas envie, et là
que t'aies envie ou
faire.
T'aies pas envie, évidemment ça arrive, mais en toute honnêteté, de moins en moins souvent.
C'est pas la majorité de ton temps.
Non. Alors on est sous pression, je suis sous pression, mais je pense que les vignerons en général. Au printemps, parce que voilà, c'est la récolte qui est en jeu, c'est très très vite, hein, c'est très tôt. Mais voilà, mais sinon... En fait, j'ai parlé avec mon père l'autre fois, parce que maintenant les rapports sont apaisés, tout va bien. Je me souviens d'un truc qu'il m'avait dit, où j'étais super en flip tout au début de la reprise. Je sais plus pourquoi j'allais le voir, mais il m'a dit, écoute, il y a des solutions à tout. Et alors ça, tu vois, c'est le truc qui m'est resté. Mmh. Et je trouve que c'est, je lui disais cette semaine, hein, je dis ça, c'est un sacré enseignement parce que ça, ce que tu m'as dit là, maintenant, je l'ai toujours en tête quand je me dis, oh, comment je vais faire ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mmh. Et tout ça, je me dis, bon, tu te poses. Il y a toujours
dans l'absolu, il y a une solution.
Il y a une solution, donc boum, tu réfléchis, tu te poses et...
Et tu la trouves et tu trouves la solution qui est en phase avec toi-même.
C'est ça, ou je demande conseil. Enfin, en tout cas, c'est plus la panique, c'est plus... tu vois, c'est pas à gérer le truc, mal géré, parce qu'il faut absolument, C'est, bon, bah, c'est pas si grave, hein, c'est tout, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Mmh. Ça aussi, c'est OK, j'ai fait une boulette, et ben OK, tu manges ta boulette et puis... Tu passes à autre chose.
Qu'est-ce
t'as
que
fait ta bêtise ben...
Qu'est-ce que j'en fais maintenant qu'elle est faite? De toute façon, on ne peut pas changer le passé. Donc maintenant que la boulette, elle est faite, enfin la boulette, moi d'ailleurs, j'appelle même pas ça des erreurs en fait. Ça amène à quelque chose.
Ça, tu en fais quelque choix, chose. Le choix, enfin bref.
Ouais. Oui, c'est fait de toute façon. Tu ne peux pas revenir en arrière, on ne peut pas changer le passé. Donc quitte à ce que ça soit fait et qu'on ne puisse pas le changer, autant faire quelque chose de positif plutôt que de quelque chose de négatif qu'on rumine. Okay.
Ah ouais,
donc, qu'est-ce qu'on en tire comme apprentissage, comme leçon et comment on rebondit
C'est ça. Voilà. En fait, un des secrets, c'est...
Attention, c'est... mystère. Attention. Le secret...
Je vais lâcher une bombe.
Vas-y.
C'est accepter ce qu'on a fait, ne pas s'en vouloir. C'est OK.
C'est OK. Le pardon, ce que tu disais tout à l'heure. Mais le pardon, pas que aux autres, le pardon à soi-même.
Non, mais déjà à soi, s'aimer, se respecter, se pardonner nos erreurs, nos failles, nos défauts, nos soi-disant défauts, ce qu'on n'aime pas chez nous. Enfin, accepter, s'accepter, et là, après...
Est-ce que tu penses que le fait d'être une femme dans ce secteur-là, ça a été plus difficile ou pas pour toi? Ça a joué?
Pour moi, oui. Clairement, c'est un métier de macho, mais la banque c'est un bon métier de macho aussi. En fait, je crois qu'on est dans un monde de macho, c'est ma vision du monde, hein. Alors je demande à personne d'adhérer, mais en tout cas c'est ce que je pense.
C'est la tienne, donc c'est
voilà.
OK.
Voilà, donc c'est OK. moi du coup, j'avais plusieurs casquettes qui n'étaient pas bonnes pour mon image, c'est que donc, j'étais une femme, donc j'y connais rien, en plus j'ai fait autre chose avant. Je suis une femme, je divorce. J'ai deux enfants, et en plus, je travaille plus ou moins bio au début, donc qu'est-ce que je veux leur montrer, là? Qu'est-ce que je fais chier tout le monde, ce qu'on m'a dit, hein, à vouloir pas faire comme les autres, quoi. Et donc, je pense que j'ai accumulé les mauvaises casquettes. Femme, divorcée, nouvelle dans le métier. Donc, c'est OK, hein, les défis, je les ai relevés, check, ça s'est fait... Je voulais prouver, je n'ai plus rien à prouver maintenant. Ça aussi, dans la colère, mais je vais leur montrer. Enfin bref, il y a quand même une ambiance assez machiste. Et oui, j'ai trouvé ça dur. Alors, je pense que les femmes sont en train de se réveiller. Là, il se passe plein de choses. Il y a plein de mouvements, les vibrations s'élèvent et tout ça. Mais j'ai souffert de ça. Je n'en souffre plus parce que je pense que je leur renvoie des choses qu'ils ne sont pas capables de faire, eux, qu'ils n'ont pas eu le courage de faire. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas me faire des amis, je m'en fous. J'ai des amis déjà. Ouais, il faut avoir un peu de courage pour être en ligne avec ce qu'on est, pour oser être ce qu'on est. Voilà.
Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui sont, en fait, dans la situation dans laquelle tu étais avant de partir de la banque, qui ont envie de changer, mais qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à trouver ce que toi, tu avais trouvé d'être aligné avec qui tu es? Ils ne savent pas quoi faire pour être alignés avec eux-mêmes et savoir ce qui est bon pour eux. Comment savoir? Comment tu as su que c'était ça que tu devais faire, toi?
Parce que, écoute, j'ai toujours aimé être dehors, j'ai toujours aimé les vignes.
Donc, tu as écouté ce que tu aimais faire, en fait?
Ouais. Oui. Je l'ai étouffé assez longtemps. Et c'est vraiment le décès de maman, le déclic. Enfin, je me dis, mais...
Je comprends, il y a ce déclic, mais il y a aussi la capacité, une fois que tu as le déclic, de dire, bon, c'est pas ce que j'aime faire, ce que je fais là, c'est pas ce que j'aime faire, mais finalement, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Par quoi passe mon épanouissement? T'as écouté, en fait, ce que tu aimais faire, tout simplement,
ça? Non, mais moi, je voulais déjà faire ça en sortant de l'ESC. Et mon père m'a dit, c'est pas possible, tatati, tatata. Voilà, donc, pas fait, docile. T'es encore à peu près docile à l'époque. Donc voilà, j'ai bossé ailleurs, j'ai trouvé du boulot, quoi. Fallait travailler. Ça me plaisait pas. Après, la banque, ça ne me plaisait pas non plus, sauf les gens, enfin, sauf le contact avec l'homme, enfin, les hommes, enfin, les humains. Mais j'allais toujours aux vignes pour mes vacances, je donnais des coups de main parce que ça me plaisait. Donc je dirais que vraiment aucun mérite. C'est facile pour moi parce que je suis issue de la terre, donc c'était facile de savoir que c'était la terre et d'y revenir. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est...
Mais en... c'était naturel en fait.
Pour moi c'est très naturel.
Ok, est-ce que tu as, on a parlé tout à l'heure des mentors, des personnes qui t'ont inspiré, est-ce que tu as eu aussi des lectures, des sources d'inspiration comme des livres, des films, des citations, des choses qui t'ont,
oui,
qui
des
t'ont vraiment
des citations,
accompagné?
Des citations, beaucoup, que je mettais sur mes cartes de vœux quand j'envoyais des vœux à mes clients. Oui, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Un livre en particulier, non. Je lis beaucoup de livres en ce moment sur le féminin sacré.
D'accord.
Je lis beaucoup, un peu de tout. Enfin, je ne sais pas, Paulo Coelho, enfin, c'est standard, mais des choses. Et je trouve des fois dans des bouquins des citations, enfin, des trucs qui me...
Qui font écho en toi.
Qui font écho, que je note. Et j'ai plein de petits post-it, tu verras, sur mon écran d'ordinateur, avec des citations. Par exemple, une de Bouddha, c'est... accepte ceux qui... Enfin, je sais plus, je l'ai plus. Là, j'ai pu la retrouver parce que je suis enregistrée, évidemment.
Je la retrouverai, je la mettrai dans le...
Ouais, tu la mettras.
Je la mettrai dans les notes de l'épisode.
Et ça, je l'ai dit aux enfants. Et les enfants, ça leur parle aussi. En fait, je crois qu'après avoir été tellement en colère, je deviens sage. Enfin, je deviens posée. Alors, ça m'arrive encore de m'énerver. Hein. Voilà. Mais alors, vraiment, je découvre des choses en moi que je connaissais pas. Et j'aime beaucoup ça parce que du coup, j'ai la chance d'avoir deux enfants, deux garçons, comme par hasard. Je dis comme par hasard parce que je me suis tellement opposée à mon père et à mon frère que, évidemment, j'ai deux garçons qui sont super et du coup, je peux leur transmettre pas que tous les hommes sont machos, tout ça. Je l'ai pensé, je le pense plus. Je pense que c'est à nous de les éveiller, enfin, c'est à nous de les guider, de leur montrer un peu comment ça peut être, de casser, tu sais, tous ces codes.
On est un peu cette génération, hein,
c'est ça.
Je pense, toi et moi, où on inculque ce changement de pensée, de fonctionnement, et je pense que nos enfants, effectivement, auront naturellement ce cheminement que nous, on a dû faire à un moment donné. Je pense qu'on est la transition, effectivement.
Oui, c'est ça. Et du coup, du coup...
En tout cas, de tout ce qui t'a inspiré, j'ai bien compris, il y a quand même une phrase qui est forte pour toi, c'est « tout est ok ».
Oui.
C'est
rigolo parce que ça paraît idiot, mais en fait, ça m'a... En fait, cette phrase-là que Catherine me disait tout le temps, « c'est ok, Élise », ça m'a autorisée à être ce que je suis. C'est super important. Parce que, en fait, si tu veux, moi, comme je me suis toujours battue, enfin, voilà... à chaque fois, les retours que j'ai des gens qui me connaissent pas très peu ou principalement de ma famille, c'est Élise, elle a un sacré caractère, en sous-entendu un sale caractère.
Oui, bien sûr. Considéré comme un défaut finalement, pas comme une force.
C'est ça. Alors que, enfin, on m'a collé des étiquettes et je me sens pas du tout correspondre à ça. En fait, j'ai réagi. C'est ça. Avant, j'étais en réaction. Maintenant, je suis dans l'action.
Oui, tout à fait.
Donc maintenant, on me pique. Voilà, je vais être piquée une heure, un jour, puis après je me dis, ah, c'est bon, enfin, voilà. Mais comme je te disais tout à l'heure, la colère, ça a été un sacré moteur. Pour moi, ce qui m'a sauvée.
Mais justement, quand tu dis je suis piquée, c'est important quand même, malgré tout, de vivre cette colère-là. Moi, je trouve que la colère, c'est une émotion qui est hyper importante à dire.
Oui.
Parce que finalement, ce qui est important, c'est ce que t'en fais de cette colère-là.
C'est ça.
Est-ce que tu luttes, comme tu dis, est-ce que t'es dans la réaction vis-à-vis de la personne et que t'attends que la personne en face de toi change pour apaiser cette colère-là? En fait, la bonne réaction par rapport à ça, c'est pas une réaction, d'ailleurs, c'est une action, c'est... Plutôt que d'attendre de l'autre qu'il change, c'est vraiment se comprendre soi-même et se dire, bon, là, ça m'a piqué, ça m'a mise en
qu'est-ce
colère.
Que
qu'est-ce que
derrière.
Ça m'évoque,
oui,
à moi
ça.
Qu'est-ce que moi j'ai à faire vis-à-vis de moi-même? Quel cheminement, quelle réflexion j'ai à mener vis-à-vis de moi? Qu'est-ce que ça vient blesser en moi? Qu'est-ce que l'émotion, finalement, elle vient me dire par rapport à moi? Et comment je peux faire avancer ça?
C'est ça.
Et travailler sur moi pour ne plus être dans la réaction après.
C'est ça. Écoute, ça se place, je ne sais pas exactement comment... Mais à force, je m'en voulais d'être en colère et tout ça, mais Oui, ça se fait tout seul. Mm. J'apporte pas beaucoup de réponses, en fait.
si. Non, mais c'est hyper intéressant parce que je trouve que quand on en arrive, tu parlais de sagesse tout à l'heure, quand on en arrive à ce niveau-là, c'est tellement libérateur, en fait, de comprendre ça, que ça fait un bien fou, et se dire que c'est possible.
Je savais pas que c'était possible, et maintenant, j'en suis là, je me dis, waouh. Quel chemin parcouru. Et je parle pas de mon métier pour le coup, je parle de moi.
De toi.
Ouais,
oui, mais forcément de toi, ça se répercute aussi sur ton métier,
ah,
sur
oui,
ce que
oui,
tu
oui.
fais.
Non,
forcément.
Mais carrément.
Inévitablement.
Ouais, inévitablement.
Bon, bah écoute, en tout cas, pour moi, c'était hyper intéressant d'échanger avec toi. Merci beaucoup pour ces partages.
Merci à toi.
Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou est-ce que tu auras encore quelque chose à ajouter, quelque chose à dire, à partager?
Oui, je voudrais dire, je m'adresse aux femmes.
Oui, vas-y. C'est la journée de la femme en plus.
C'est
aujourd'hui ou c'était hier?
Je sais pas.
Je crois coïncidence du calendrier, même si l'épisode sortira un petit peu plus tard.
Je voudrais dire aux femmes que surtout, il faut qu'elles gardent espoir, qu'elles aient confiance en elles et que... on est très grande, on nous a étouffé, je veux dire, on a fait taire notre pouvoir, on fait beaucoup, on fait très peur. Mmh. Et en fait, n'ayez pas peur. Et prenez soin de vous, ayez confiance en vous et tout ira
bien. Et tout est ok.
Ouais.
Et tout est ok. Et tout est ok pour chacune d'entre nous.
Oui. Vraiment qu'elles aient confiance en elles, qu'elles s'aiment, qu'elles se valorisent sans avoir un ego surdimensionné. Mmh. Mais vraiment, s'aimer, ça veut dire s'accepter comme on est et ça veut pas dire ne pas combattre pour avoir la paix. Ça veut dire se faire respecter. C'est quand c'est pas en alignement avec nous, c'est non. Mmh. Enfin, et les conséquences, elles viennent derrière, elles se gèrent, mais il n'y a pas... Ne pas se laisser asservir, ne pas se laisser... Soyez libre.
Bon, écoute, sur ces belles paroles, merci beaucoup. Quelques petites informations pratiques. Où est-ce qu'on peut trouver ton champagne?
Ah, très très bonne question. Donc, on le trouve dans peu d'endroits, okay. pour l'instant. Donc, on le trouve principalement chez moi.
Ça tombe bien, je tombe suis bien. Là.
Ça tombe bien, aujourd'hui, je suis à la maison. On le trouve chez deux cavistes à Paris, chez Dilettante et chez Bacchus. Et voilà, c'est tout. Sinon, je suis dans très très peu d'endroits.
D'accord.
Pour l'instant.
Okay.
Mais c'est en cours de construction, ça.
D'accord. Bon, je mettrai les références de là où on peut trouver dans les notes de l'épisode. Si les personnes veulent te contacter, te découvrir, se renseigner, connaître ton champagne, où est-ce qu'on peut te trouver?
Sur mon site internet.
D'accord. Ouais. Ok, je mettrai les références aussi.
Ok.
Dans les notes du podcast. Et l'actualité à venir, où est-ce qu'on peut te voir? Des salons, des manifestations?
Oui, je vais à Reims au salon Bulbio.
Mm-hmm. Qui aura lieu quand?
Le 14 avril.
Avril.
La semaine des champagnes. Le 17 avril au Rissé, on organise une dégustation panoramique avec les copains bio, les gens dont je te parlais tout à l'heure, Olivier Marie et d'autres. Et puis je suis en Allemagne le, je sais plus, 2, 3, 4 mai à Nuremberg, pareil, un salon bio.
D'accord.
Voilà, avec mes importateurs.
Bon, bah, très bien. Écoute, je mettrai tout ça dans les
notes
de l'épisode. Si des personnes ont des questions, que ce soit sur ton champagne ou même sur les échanges qu'on vient d'avoir, est-ce que tu es joignable, disponible
bien sûr. Joignable, oui, disponible, pas toujours.
Pas forcément, mais en tout cas, tu réponds. C'est
oui.
ça. Si on t'écrit ou qu'on te contacte, tu réponds.
Mm.
Bon, bah, super. Merci beaucoup, Élise.
Merci à toi, Catherine.
Et puis, bonne continuation à toi.
Merci.
Merci. Rebonjour à tous. J'espère que cette rencontre avec Élise Dechâne vous aura inspiré. Vous le savez, à chaque fin d'épisode, je vous propose une clé, c'est-à-dire un outil un peu plus théorique et pratique sur le thème de l'interview pour que vous puissiez passer à l'action et amorcer des changements dans votre vie. Élise nous a souvent parlé, dans l'interview, de la colère qu'elle a pu ressentir à certains moments de sa vie et j'ai eu envie, aujourd'hui, de faire un focus sur ce sujet. D'ailleurs, au-delà de ce podcast, vous savez que régulièrement, je publie aussi du contenu sous format écrit, sous forme de fiches synthétiques sur des sujets de développement personnel que vous pouvez retrouver sur mon site internet dans la rubrique « Les boîtes à clés » et je vous propose ici de reprendre une de ces fiches, une clé, au sujet de la colère. Comment apprivoiser sa colère pour faire en sorte que celle-ci ne soit pas bloquante, mais plutôt qu'elle vous permette d'avancer.
En réalité, la colère est une émotion primaire. C'est une réaction de protection. C'est une réponse à une injustice ou à une violation. Elle vise à préserver notre intégrité et défendre nos frontières et nos valeurs. La colère nous informe en fait d'un besoin de réparation, un besoin de retrouver un équilibre face à une injustice ou à une atteinte à l'intégrité psychique ou physique. Elle peut se manifester sous différentes formes, soit l'explosion, de façon plus ou moins contrôlée, soit l'implosion, comme un volcan qui gronde à l'intérieur et qui s'accumule souvent de façon trop importante. La colère est généralement intériorisée ou refoulée dans notre société. C'est l'émotion la moins bien acceptée car elle est souvent synonyme de violence, physique ou verbale. Et pourtant, la refouler peut avoir des conséquences importantes, notamment sur notre santé. Il est donc important d'apprendre à l'accueillir et la gérer de la façon la plus écologique pour soi-même et pour les autres, bien entendu. Ce que je vous propose pour apprivoiser votre colère est de mettre en place un processus de questionnement. Ce questionnement, il a pour intérêt de dépasser la simple expression de la colère de manière impulsive, de ne pas rester justement dans une situation où l'on ne fait que ruminer l'élément déclencheur sans passer à l'action. Se poser certaines questions va justement permettre d'aller au-delà de cette colère et de se mettre en dynamique. La première question que je vous propose de vous poser est la suivante. Quel est l'élément déclencheur de ma colère? Quelle est la situation extérieure? Quels sont les faits qui ont déclenché cette colère? J'ai décidé de prendre un exemple professionnel, puisqu'on est dans une série d'épisodes liés à l'entrepreneuriat. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui reçoit de son supérieur hiérarchique une remarque désagréable sur un travail qu'il vient de lui rendre, alors qu'il y a passé beaucoup de temps et que cela lui a demandé beaucoup d'efforts. Donc voilà la réponse à la première question, quel est l'élément déclencheur, quels sont les faits déclencheurs? Et en l'occurrence ici, il s'agit de la remarque de la part du responsable hiérarchique. La deuxième question à se poser est la suivante, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce qu'il se passe physiquement? Quel est mon ressenti? Ça peut être, dans notre exemple, le rythme cardiaque qui s'accélère. Troisième question, comment j'exprime cette colère? Qu'est-ce que j'en fais? Je vais rester dans mon exemple et ici, cela pourrait être « je ne dis rien » car c'est mon responsable hiérarchique et donc je n'ose pas lui faire part de cette colère. Quatrième question propose de réfléchir à quel est le besoin qui est insatisfait à ce moment-là. Si je creuse la réflexion, quel est le lien entre la situation de départ, l'élément déclencheur, et cette colère? Je vous disais tout à l'heure que la colère est une réponse à une injustice, à une violation. C'est une réaction à une protection. Alors la quatrième question est la suivante. Quel besoin est insatisfait et génère cette colère? Dans cet exemple que nous venons de prendre, il peut s'agir d'un besoin de reconnaissance ou d'un besoin de justice. C'est-à-dire que je peux ressentir, lorsque mon responsable hiérarchique me fait une remarque désagréable sur un travail que je viens de lui rendre, alors que j'y ai passé beaucoup de temps et que cela m'a demandé un grand nombre d'efforts, je peux ressentir un sentiment d'injustice qui provoque cette colère et le besoin qui est donc fondamental pour moi de satisfaire est un besoin de reconnaissance et de justice. La cinquième question à se poser, il s'agit là de décider d'aller au-delà de cette colère, maintenant qu'on a identifié les éléments déclencheurs et qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là, c'est d'avancer avec cette colère. Et la cinquième question est la suivante, comment gérer cette frustration? Qu'est-ce que je peux en faire? Toujours dans notre exemple, il peut s'agir de faire le point avec mon responsable hiérarchique afin de comprendre ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas et décider ensemble de ce qui peut être amélioré sur ce dossier, en lui exprimant mon ressenti et les efforts fournis par ce travail. Et la sixième et dernière question à se poser, quelles sont les actions que je peux mettre en place pour générer un changement? Par exemple, demander à mon responsable hiérarchique à quel moment nous pouvons faire le point ensemble sur le sujet et prendre un rendez-vous, préparer cet entretien en lui exposant les faits, le temps passé et en préparant les questions que je vais avoir à lui poser et les éventuelles réponses que je vais pouvoir lui apporter. Donc si je résume, le processus de questionnement que je vous propose pour vous permettre d'apprivoiser votre colère et surtout de ne pas rester bloqué par rapport à cette situation-là mais d'avancer, sont les questions suivantes. Premièrement, quel est l'élément déclencheur de ma colère? Quels sont les faits? Deuxièmement, qu'est-ce que je ressens physiquement dans mon corps? Troisièmement, comment est-ce que j'exprime cette colère? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que j'en fais? Quatrièmement, quel est ou quels sont les besoins insatisfaits par rapport à cette colère? Cinquièmement, comment gérer cette frustration? Et sixièmement, quelles actions je peux mettre en place pour générer un changement? Il est important de préciser que nous avons souvent tendance à rendre responsables de notre bien-être intérieur les faits ou les personnes qui nous entourent. Nous pensons que nous nous mettons en colère à cause du comportement de telle ou telle personne, mais en réalité, c'est le fait que un de nos besoins ne soit pas satisfait et notre interprétation de la situation qui nous provoque cette émotion négative et déclenche de la colère. D'où l'intérêt de mener tout le questionnement que je viens de vous proposer. Voilà pour ce 9e épisode. Encore une fois, je vous invite à le partager et à me faire vos feedbacks. Pour me contacter, vous trouverez toutes mes coordonnées sur le site www.cbcoach.fr ou sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook CBCoach, sur le compte Instagram sous le pseudo CBCoach51. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de cette mini-série à la rencontre d'entrepreneurs.